Les séminaires du Collège de France.
Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue au Collège de France et plus particulièrement dans le cadre du séminaire que j'organise cette année parallèlement aux leçons du jeudi matin. Comme vous l'aurez vu sur le programme, j'ai choisi cette année de repartir sur la même formule que l'an dernier, avec le même titre, « Sacrifice en comparaison 2 », forcément. Et donc, j'accueille un mercredi sur deux, pendant la période de mes cours, deux collègues qui viennent de champs d'investigation distincts, et je leur ai demandé de livrer leur regard sur les questions du sacrifice et notamment, mais pas uniquement, dans la dimension sociale et politique, puisque je parle cette année du sacrifice dans les cités. Ce sera donc la formule qui sera systématiquement appliquée, hormis un des séminaires où j'ai invité uniquement des collègues hellénistes pour parler d'aspects de l'opération sacrificielle dont je traite de façon moins directe, notamment tout ce qui relève de l'archéologie expérimentale et de la zooarchéologie. Mais aujourd'hui, place à la comparaison, et donc je suis extrêmement ravie d'accueillir Pierluigi Lanfranchi et Marie Leconte Tilwin, qui vont nous parler donc respectivement du sacrifice chrétien. Vous voyez, ce sera la première intervention qui nous sera donnée. Et puis, par ailleurs, dans une démarche d'anthropologie de terrain, le sacrifice en contexte népalais. Donc nous ancrons systématiquement dans le contemporain. Ça, c'est un point important. Ça veut dire évidemment qu'il y aura aussi une approche de l'opération sacrificielle qui sera, je dirais, moins médiatisée au sens de filtrer par rapport à ce que moi, pour l'Antiquité, je peux évidemment vous livrer dans mes cours. Donc il faut un petit mot d'avertissement. Certaines images, comme on dit dans les médias, pourront heurter les âmes sensibles. J'aime autant vous prévenir, mais bon, je pense que ça fait aussi partie de la démarche, et notamment ça ouvre tout un pan de cette investigation que les antiquisants, malheureusement, sont bien démunis à affronter eux-mêmes. Donc je voudrais vous présenter d'abord brièvement Pierluigi Lanfranchi, qui va ouvrir donc cet après-midi de séminaire. Alors Pierluigi est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille en hellénisme et judaïsme, donc il est à la fois philologue et historien des religions. Il a soutenu en 2005 une thèse qui portait sur une œuvre particulière, en tout cas pour les hellénistes, une œuvre particulière, à savoir l'exagogé d'Ézéchiel le Tragique. Donc Ézéchiel le Tragique est un auteur du IIe siècle avant notre ère, qui a écrit en fait une tragédie sur l'Exode, avec Moïse en héros de la tragédie, le tout donc écrit en grec. Et dans sa thèse, Pierluigi Lanfranchi a présenté une édition, une traduction, un commentaire de cette tragédie, et donc le tout a été publié chez Brill en 2006. Ce qui est particulièrement intéressant, en tout cas de mon point de vue, dans le travail de Pierluigi Lanfranchi, c'est précisément qu'il travaille à la croisée de l'hellénisme et de la tradition juive, en poussant d'ailleurs son investigation jusqu'à la fin de l'Antiquité, avec précisément ces relations entre les Juifs et les chrétiens dans l'Antiquité tardive. Comme vous vous en doutez, ses intérêts portent aussi sur le sacrifice, ce qui justifie l'invitation d'aujourd'hui. Il a en effet participé à un programme transversal de recherche intitulé « Sacrifice animal en Méditerranée ». Et dans le cadre de ce programme transversal, il a été à l'initiative, je pense, d'un film, d'un documentaire sur un rituel sacrificiel qui a encore lieu de nos jours en Arménie. Et le film s'intitule Matag, Sacrifice for Safety. J'imagine qu'il nous en parlera. Et donc, c'est évidemment tout l'intérêt de cette démarche de la part d'un helléniste qui travaille aussi sur le judaïsme antique et sur le christianisme antique, mais qui va jeter un œil, plus que jeter un œil, travailler, investiguer un rituel contemporain en contexte chrétien. Et je signale aussi, parce qu'évidemment ça entre en résonance avec notre thématique, que Pierluigi en 2025 a publié justement l'entrée sacrifice d'un ouvrage collectif dirigé par Francesco Massa et qui s'intitule « Religion et interaction religieuse dans l'Empire romain tardo-antique ». C'est un projet de recherche qui a été mené à Fribourg par notre collègue Francesco Massa. Et donc, l'entrée sacrifice a été confiée à Pierluigi Lanfranchi. Et donc, je lui passe immédiatement la parole en le remerciant d'avance.
Merci beaucoup pour cette présentation et pour cette invitation. Et pour me donner la possibilité de vous présenter mes recherches qui donc portent sur le sacrifice animal dans les sociétés chrétiennes de l'Antiquité jusqu'à nos jours. La plupart des personnes en Europe occidentale, y compris parmi les historiens des religions, ignorent que certains chrétiens, par exemple en Arménie, en Géorgie, dans le Caucase, pratiquent de nos jours le sacrifice animal. Au début du mois de juin de 2023, je suis parti en Géorgie pour assister à une fête qui s'appelle l'Omisoba dans le village de Mleta, situé au nord-est de la Géorgie, pas loin de la frontière avec la Russie. J'y suis allé avec des collègues anthropologues, ma collègue Yulia Antonian de l'Université d'Erevan et Olivier Givre de l'Université de Lyon et Detelina Tocheva du CNRS. Et on était accompagnés par un guide et interprète géorgienne, Tinatine Mosiashvili. Les célébrations de la Lomisoba comprennent un pèlerinage du village de Mleta jusqu'au sanctuaire qui se trouve sur la crête qui sépare la Géorgie de l'Ossétie du Sud occupée par la Russie depuis la guerre de 2008. Je disais donc que cette fête comporte un pèlerinage au sommet du mont Lomisa ainsi que le sacrifice d'animaux, principalement des moutons, qui sont cuisinés et consommés par des familles lors de banquets dans le village situé sur les pentes de la montagne. Donc nous sommes arrivés à la veille de la fête. La fête attire de nombreux habitants des vallées environnantes et de toute la Géorgie pour un rassemblement festif qui réunit souvent les membres d'une même famille. Les pèlerins avaient déjà installé des tentes, des campements, des voitures, des camionnettes le long de la route et dans les champs autour du village. Ici, c'est le sanctuaire de Saint-Georges au sommet sur la crête de la montagne qui surplombe donc la vallée. Des dizaines de personnes étaient rassemblées autour de chaudrons fumants et de tables faisant la fête en chantant et en riant. Dès que nous sommes arrêtés pour jeter un coup d'œil, une famille d'une vingtaine de personnes de tout âge nous a invités à fêter avec eux, à boire du vin, de la tchatcha, qui est l'eau de vie géorgienne, et à manger de la viande bouillie préparée dans des chaudrons à proximité. Notre guide nous a proposé de rencontrer une famille de M. Valico et Tamar Bourdouli, qui nous ont expliqué que seulement les membres de cette famille Bourdouli sont autorisés à pratiquer le sacrifice et à prononcer la bénédiction sur les animaux qui sont sur les animaux sacrificiels. Il s'agit donc d'une famille élargie, d'un clan local de spécialistes rituels qui se passent de père en fils ce rôle, mais dont les responsabilités comprennent une série de fonctions, pas seulement de sacrificateurs, mais aussi de juges informels. Nous avons ensuite, par ailleurs, Madame Tamar était à l'époque soviétique ingénieure aérospatiale. Nous avons visité ensuite l'église du village, qui abrite une copie de l'icône miraculeuse. Malheureusement, je n'ai pas d'image de l'icône de Saint-Georges à cheval sur un destrier écarlate, une icône qui est liée au mythe de fondation de la fête. Selon la légende, en effet, l'icône aurait été volée par des envahisseurs, tantôt les Turcs, tantôt les Tchétchènes, qui l'auraient emportée avec les prisonniers géorgiens dans leur pays. Et pendant ces temps, les envahisseurs ont connu des malheurs et leurs sages ont attribué ces malheurs à cette icône. Et ils ont décidé de la brûler, mais l'icône s'est envolée dans les airs et elle est revenue en Géorgie. Selon une autre version de la légende, un taureau apparu avec l'icône clouée entre ses cornes et l'aurait ramené en Géorgie, s'arrêtant justement sur le mont Lomisa. Et dans une autre version encore, le roi tartare aurait libéré 7000 prisonniers géorgiens qui revinrent, guidés par l'icône, à cet endroit-là. Donc le mont Lomisa et son sanctuaire revêtent sans aucun doute une grande importance pour l'histoire nationale géorgienne. Il est lié cet endroit aux invasions militaires, aux affrontements culturels, aux revendications territoriales, même actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, ici quelques images de l'intérieur de l'église. Malheureusement, nous n'avons pas pu monter jusqu'au sanctuaire avec les pèlerins en raison des conditions météorologiques et parce que les collègues avaient oublié les chaussures de marche et donc c'était pas facile de monter à 2500 mètres avec la pluie avec des chaussures de ville. Mais depuis notre village sur l'autre côté de la montagne, on a pu voir donc les torches des pèlerins qui sont montés toute la nuit vers le sanctuaire de Saint-Georges. Le lendemain, à mesure que nous approchons du village de Mleta, nous avons vu des centaines de voitures qui bloquaient la route dans les deux sens. Et nous avons profité d'un long arrêt sur le pont qui surplombe le village pour regarder ce qui se passait en bas. Des voitures garées pêle-mêle, entre des tentes, de la musique, des voix, des sons qui emplissaient l'air, des grandes foules qui se rassemblaient autour de l'église et des groupes d'hommes qui travaillaient sur la pente qui mène à la rivière. Des moutons gisaient dans un fossé couvert de sang et des échafaudages en bois servaient à accrocher les animaux pour les dépouiller. Et des peaux et des restes organiques étaient jetés dans ce camion de l'époque soviétique. À la fin de la journée, il était comblé, il était plein de peau. Alors, des pèlerins faisaient le tour de l'église, trois tours de l'église avec les animaux, parfois réticents, donc principalement des moutons, mais aussi de vaches, de béliers, de coqs. Et certains pèlerins gardaient leurs animaux à l'extérieur, tandis que d'autres entraient dans l'église pour recevoir la bénédiction des prêtres et allumer des bougies. Ensuite, les animaux étaient conduits près d'un petit bâtiment, pas très loin de l'église, qui rappelle vaguement une chapelle. L'église et cette chapelle forment un lien d'interaction, tout en restant strictement séparés, comme si les pratiques religieuses institutionnelles et vernaculaires devaient coexister sans se confondre. Et là, près de cette chapelle, les membres plus âgés de la famille Bourdouli, par exemple monsieur avec le gilet jaune, prononcent des bénédictions en évoquant les noms de ceux qui offrent le sacrifice. Et ils brûlent avec des bougies quelques poils de la bête. Et donc nous nous sommes approchés pour essayer de comprendre et de commenter cette atmosphère mêlée d'occupation et de connivence qui est typique des hommes dévoués à leur tâche et qui savent exactement comment s'y prendre. Le rythme du travail et l'engagement sérieux dans le rituel laissaient peu de place à l'interaction, à l'exception de quelques regards assez hostiles vers nous, hein, les étrangers. On était les seuls étrangers, bien inoffensifs, mais quand même pas exactement à leur place. Alors, une fois bénis, les animaux sont conduits à quelques mètres de là, au bord du fossé, où les sacrificateurs, les membres les plus jeunes de la famille Bourdouli, leur tranche la gorge, en fait ils les décapitent très rapidement à l'aide de longs couteaux. Donc au cours de la journée, environ 2000 animaux seront abattus. Bien que la mise à mort soit la partie la plus impressionnante et sans doute la plus délicate du rituel, au moins pour l'observateur, ce n'est qu'une des opérations qui se succèdent. Le dépeçage, le nettoyage, la découpe des carcasses, jusqu'à ce que la viande soit prête à être bouillie dans des grands chaudrons. J'ai, dans un autre voyage en Géorgie, j'ai trouvé dans un musée, dans une autre région, dans le Svaneti, à Mestia, un ancien chaudron sacrificiel. Celui-là était dans le musée, mais j'en ai vu aussi sur le parvis des églises, encore, disons, utilisé de nos jours. Pour revenir à la fête de la Lomisoba, à l'intérieur de cette chapelle devant laquelle on pratique l'abattage, les offrandes étaient laissées pour la famille Bourdouli, des têtes de vaches, du pain, du fromage, des gâteaux, des bouteilles en plastique, de vin ou de tchatcha. Cette petite chapelle rectangulaire est divisée en deux sections. Le côté gauche ressemble à une estrade sur laquelle se trouve un autel et des icônes. Le côté droit comporte des étagères pour les offrandes. La viande est conservée derrière un rideau, sauf les têtes qui sont déposées au sol, à côté de l'entrée. Il y a aussi des objets religieux, des icônes, comme je le disais, aussi des bougies. Au fur et à mesure que les gens s'habituaient à notre présence, on a pu discuter avec certains, plutôt mes collègues qui parlent russe, et grâce aussi à l'interprète géorgienne. Il nous interdisait de prendre des photos et de filmer l'abattage, même s'il n'avait pas clairement exprimé d'objection pour les autres parties du rituel. Leur principale préoccupation était la menace que représentent les groupes de défense des animaux, qui diffusent régulièrement des images sur les réseaux sociaux et dénoncent le rituel à l'échelle internationale. Et chaque année, comme vous le voyez dans la photo, sur la photo, le jour de la fête, les militants pour les droits des animaux manifestent devant le Parlement à Tbilissi pour demander aux autorités d'interdire le rituel. Les autorités ecclésiastiques géorgiennes ne soutiennent pas non plus le sacrifice animal, soulignant leur préférence pour le sacrifice non sanglant de l'Eucharistie, même s'ils ne l'interdisent pas explicitement. Donc tout cela montre que le statut de cette fête et du sacrifice associé à cette fête est disons, ambivalent. Il suscite des jugements moraux, sociaux, culturels et politiques contradictoires, généralement associés aux rituels sacrificiels dans les sociétés modernes. La fête de la Lomisoba est un exemple parmi tant d'autres d'abattage rituel dans un contexte chrétien. Cette pratique est également présente dans d'autres régions du Caucase, en Arménie, mais aussi en Ossétie et ailleurs, dans les Balkans, au Proche-Orient, en Égypte et en Éthiopie. Il s'agit souvent de rites qui datent de la période pré-chrétienne, comme le ma'atar, le sacrifice animal que les Arméniens ont continué à pratiquer après leur conversion au christianisme au début du IVe siècle. Et jusqu'à il y a quelques décennies, cette pratique était connue aussi en Europe occidentale, par exemple en Irlande ou en Écosse, à l'occasion de la Saint-Martin, Martin Mass, où l'on tuait des animaux dont le sang était utilisé pour asperger les montants des portes, des maisons ou des étables. On trouve aussi des exemples, si vous voulez, folkloriques, de rituels de ce type, même en France, par exemple à Barjols, dans le Var, le 17 janvier, à l'occasion de la Saint-Marcel, un bœuf était traditionnellement porté en procession, béni par le prêtre, puis abattu et préparé entier, rôti entier, et consommé collectivement sur la place publique. Le rituel continue, mais le bœuf n'est plus, disons, abattu depuis le Covid. Et en Sicile, à Roccavaldina, un village dans la province de Messine, on fait la même chose, on faisait la même chose dans une fête en l'honneur de Saint Nicolas, appelée Il Convito, le banquet. Mais pendant la dernière édition 2024, les associations pour la protection des animaux ont en quelque sorte menacé le maire, le curé du village, qui ont renoncé au rituel, à la procession du veau. À quelques exceptions près, le phénomène du sacrifice animal dans le contexte chrétien a échappé à l'attention des historiens des religions qui se sont intéressés à ce sujet. L'un des objectifs de ma recherche est de porter à l'attention des historiens ce rituel méconnu. Je voudrais maintenant avancer quelques hypothèses sur les raisons pour lesquelles le sacrifice animal chrétien n'a pas suscité l'intérêt des historiens des religions. Il est certain qu'un préjugé théologique a pesé dans ce manque d'intérêt. Selon une théologie chrétienne qui s'est développée déjà à partir du IIe siècle, la mort du Christ a été interprétée comme un sacrifice, le seul vrai sacrifice capable d'expier les péchés, et a rendu le sacrifice animal biblique obsolète. Quant au sacrifice païen. À chaque fois que je prononce le mot païen, vous mentalement mettez des guillemets, ça c'est clair. Donc pour les chrétiens, le sacrifice païen n'a pas de sens parce qu'il est offert à des faux dieux, à gli dei falsi e bugiardi, comme le dit Dante, donc à des dieux faux et menteurs. Selon le récit traditionnel, avec la christianisation de l'Empire et les décrets des empereurs à la fin du IVe siècle, des empereurs chrétiens, le sacrifice animal païen, qui avait perdu de son importance et était également critiqué par les philosophes néoplatoniciens, aurait été définitivement interdit. Mais ce récit n'est pas corroboré par les sources littéraires, épigraphiques et archéologiques, et il est profondément influencé par le préjugé théologique que j'ai évoqué et par le paradigme de la spiritualisation progressive de la religion. Selon certains chercheurs, le judaïsme aurait fourni l'exemple d'une religion pouvant se passer du sacrifice sanglant bien avant le christianisme. En effet, le service sacrificiel a pris fin après la destruction du temple par les Romains en 70. Et dans le judaïsme, on ne peut pratiquer le sacrifice que dans le temple. Donc, pas de temple, pas de sacrifice. Les rabbins ont alors remplacé le sacrifice animal par la charité, par la prière, par l'étude de la Torah, par le jeûne. Bien que les juifs et les chrétiens aient mis fin au sacrifice animal, le judaïsme et le christianisme restent des religions sacrificielles, c'est-à-dire des religions qui placent l'idéologie et le langage sacrificiel au centre de leur système théologique et rituel. Le principal représentant de cette position est l'historien Guy Strumsa, auteur, entre autres, d'un recueil de conférences données ici même au Collège de France, qui s'appelle justement « La fin du sacrifice ». Strumsa reconnaît que le sacrifice sanglant a continué d'exister dans une certaine mesure au sein des sociétés chrétiennes, même après son abolition officielle à la fin du IVe siècle. Cependant, selon lui, la survie du sacrifice animal dans les sociétés christianisées ne serait qu'apparente, car sa structure et sa fonction seraient radicalement différentes de celles des sacrifices païens dont il serait la continuation. Donc le sacrifice animal dans le contexte chrétien serait un anachronisme, un archaïsme, qui n'aurait plus raison d'être. Les catégories de spiritualisation, intellectualisation, rationalisation que Strumsa et d'autres savants comme Jan Bremer utilisent pour décrire les mutations religieuses opérées par le judaïsme rabbinique et par le christianisme primitif impliquent une vision évolutionniste de l'histoire religieuse de la Méditerranée pendant l'Antiquité tardive. Elles suggèrent implicitement que seules les religions ayant subi ces mutations ont pu survivre, tandis que les autres étaient vouées à un déclin inévitable et finalement à leur disparition. À mon avis, la reconstruction de Strumsa est trop linéaire et téléologique. Mettre l'accent sur le rôle du judaïsme dans l'anticipation des mutations religieuses de l'Antiquité tardive, mutations qui auraient finalement abouti à la christianisation de l'Empire romain, conduit inévitablement à négliger les continuités, les compromis et les négociations entre les traditions rituelles pré-chrétiennes et celles qui sont apparues pendant l'Antiquité tardive. Si le judaïsme a indubitablement dû se repenser en profondeur après la destruction du Temple de Jérusalem, il n'en est pas moins vrai que la fin des sacrifices n'a pas concerné tous les groupes religieux de l'Antiquité tardive. Les polythéistes ont continué à les pratiquer bien après la fin du IVe siècle, tout comme les Samaritains et les chrétiens de différentes églises. Et dans la nouvelle religion apparue à la fin de l'Antiquité, l'islam, le sacrifice animal occupe toujours une place centrale. Plus récemment, certains historiens ont réagi au paradigme de la spiritualisation de la religion. Par exemple, Daniel Ulucci, dans son livre « The Christian Rejection of Animal Sacrifice », affirme à juste titre que le paradigme avec lequel le sacrifice a été interprété à l'époque moderne est conditionné par l'idée chrétienne d'une religion pure et spirituelle comme forme accomplie de religion, par opposition aux religions primitives et archaïques qui pratiquent des sacrifices sanglants. Les détracteurs du sacrifice dans l'Antiquité, les prophètes bibliques ou les philosophes grecs, les pythagoriciens, etc., auraient été les précurseurs de cette forme de religion pure. Mais en réalité, selon Ullucci, il n'est pas correct d'interpréter les textes des philosophes grecs ou des prophètes bibliques comme des critiques du sacrifice. Ils expriment plutôt leurs idées sur la signification du sacrifice et sur ce qu'était pour eux le sacrifice idéal. Un véritable rejet du sacrifice animal n'est apparu qu'avec l'avènement du christianisme. Mais pour Ullucci, il s'agissait en quelque sorte d'un rejet posthume. À l'instar de Strunza, Ullucci estime que les premiers chrétiens ont cessé de pratiquer les sacrifices pour des raisons contingentes et historiques. La destruction du temple de Jérusalem a privé les disciples de Jésus et tous les autres juifs de la possibilité d'offrir des sacrifices sanglants. Les auteurs chrétiens des générations suivantes ont tenté de rationaliser et de justifier le fait que les chrétiens ne sacrifient pas d'animaux à l'aide de divers arguments, sans jamais parvenir à une solution claire et systématique du problème. Ullucci fait une distinction entre ce qu'il appelle les « practitioners » de rituels religieux, qui sont essentiellement des actions non discursives, et les producteurs culturels. Les praticiens n'ont pas besoin d'attribuer une signification aux gestes rituels pour les accomplir. Tandis que les producteurs culturels s'affrontent dans l'arène de la compétition culturelle et entendent imposer leur propre définition de ce qui constitue une pratique religieuse correcte et de sa signification. Donc, selon Ullucci, la position antisacrificielle de l'élite des producteurs culturels chrétiens s'est imposée parce que la diffusion du christianisme a entraîné un changement dans la localisation du pouvoir religieux. Alors que dans la culture méditerranéenne traditionnelle, le pouvoir religieux était dans les mains de la classe des riches propriétaires terriens, dans une société essentiellement agricole, les élites chrétiennes ne tiraient pas leur pouvoir de l'économie agraire, il s'agissait plutôt d'hommes des villes, dont le pouvoir résidait dans leur capacité à lire, interpréter et produire des textes faisant autorité. Ullucci peut donc conclure, je lis en français la citation, qu'à long terme, c'est le changement dans la localisation du pouvoir religieux qui explique le mieux le fait que les chrétiens ne pratiquent pas le sacrifice animal. Dans un contexte social où le pouvoir religieux découlait de la production intellectuelle et de la maîtrise des textes, le sacrifice animal, lié à la production agricole et à la propriété foncière, était tout simplement une pratique incohérente. Tout comme les joutes ou le port des perruques poudrées, une comparaison à mon avis un peu bizarre, cela n'avait plus de sens pour les gens comme chose à faire. Donc Ullucci, comme la majorité des historiens de l'Antiquité, ignore que les chrétiens ont continué à sacrifier des animaux jusqu'à nos jours, et qu'évidemment, le sacrifice n'est pas du tout une pratique incohérente et qu'il continue d'avoir du sens pour ceux qui la pratiquent. Les conclusions de Daniel Ullucci sont acceptées par James Rees, l'auteur d'un livre récent, excellent, Histoire du sacrifice, l'Empire romain, que vous voyez. Si l'explication de la prétendue fin du sacrifice qu'Ullucci propose n'est pas satisfaisante, car le sacrifice n'a jamais vraiment cessé d'être pratiqué, en revanche, la distinction qu'il propose entre practitioners et producteurs culturels est très utile et nous permet, je pense, de comprendre pourquoi le sacrifice animal chrétien a été largement ignoré par les historiens des religions. Il est en effet essentiel de distinguer deux niveaux. Celui des activités sacrificielles, et celui des spéculations et des élaborations conceptuelles autour du sacrifice. Les chercheurs modernes ont généralement privilégié le point de vue des experts religieux, lettrés, et ont négligé celui des acteurs de la religion de l'échange social. J'emprunte les catégories de spécialistes lettrés et de religion de l'échange social quotidien à Stanley Stowers, dont vous voyez le livre à côté de celui de Reeves. Le sacrifice animal chrétien se situe au niveau de ce que Stowers appelle justement la religion de l'échange social quotidien. Trois types de pratiques se distinguent dans ce type de religion dans le monde ancien. Les pratiques divinatoires, les pratiques liées au langage, la prière, les malédictions, et les pratiques de réciprocité sociale, donc les offrandes et les sacrifices. Les connaissances les plus importantes pour ce type de religiosité ne sont ni les récits mythiques ni les discours théologiques, mais une combinaison de connaissances pratiques issues d'habitus sociaux communs, de traditions, d'inférences sur le comportement de la divinité en tant que personne. Le mode de fonctionnement de la religion de l'échange social quotidien est très différent de celui des producteurs culturels cultivés, spécialistes de la religion en raison de leur capacité exégétique, de leur prestige et de leur appartenance à l'élite sociale. Ces spécialistes et producteurs culturels forment des communautés textuelles qui regroupent une petite partie de la population. Néanmoins, les chercheurs ont tendance à faire coïncider ces communautés textuelles avec la religion juive, la religion chrétienne, sans tenir compte des segments importants de la population qui n'étaient pas du tout intéressés par l'activité exégétique en tant que méthode épistémique fondamentale. Selon Ramsay MacMillan, dans le christianisme des premiers siècles, l'élite cultivée ne représentait que 5% de la population chrétienne. C'est précisément le point de vue de ces spécialistes et des producteurs culturels anciens qui a dominé la recherche sur le sacrifice animal. Cependant, ceux qui pratiquaient le sacrifice dans l'Antiquité n'étaient pas nécessairement des lettrés, et cette pratique ne dépendait pas des textes écrits et de leur interprétation. Comme le dit Stowers, je cite, « En revanche, les pratiques de sacrifice animal étaient liées à l'agriculture, à l'élevage, à la terre. Ce n'était pas l'écriture, la lecture, les techniques d'interprétation, l'art oratoire, la prise de position sur la vérité, mais des versions particulières de l'abattage, de la cuisson, de la consommation de ce qui provenait de la terre et de l'observation des signes qui constituaient les compétences religieuses centrales du sacrifice. » Ce sont ces éléments que l'on retrouve également dans le sacrifice animal chrétien contemporain. Donc, l'objectif de ma recherche est de comprendre la pratique du sacrifice animal dans les sociétés chrétiennes en la situant au niveau de la religion de l'échange social quotidien et en la sortant des débats antisacrificiels des élites chrétiennes et à leurs discours théologiques et normatifs. Bien évidemment, le problème qui se pose à l'historien de l'Antiquité est celui de saisir la religion de l'échange social quotidien, étant donné que la documentation dont il dispose ou elle dispose provient presque exclusivement des producteurs culturels cultivés. La littérature patristique est le produit de cette dernière forme de religiosité, mais elle a pour cible polémique la religion de l'échange social quotidien, dont elle cherche tantôt à interdire les pratiques, tantôt à les réformer pour les rendre compatibles avec son propre modèle de christianisme. Les auteurs patristiques tels Augustin, Chromas d'Aquilée, Zénon de Vérone et tant d'autres qui critiquent les sacrifices pratiqués par ceux qu'ils définissent des demi-chrétiens qualifient justement les acteurs de la religion de l'échange social quotidien de chrétiens ambigui et lubrici, ambigu et vacillant, de turba non docta legendi, une foule illettrée, de carnalis et imperita plebs, de populace, charnelle et inculte. Leurs écrits reflètent donc des positions normatives et visent à tracer une ligne de démarcation nette entre ce qui est chrétien et ce qui est païen. Cette fois-ci sans guillemets, parce que c'est le terme qu'ils utilisent. Dans une logique d'exclusion mutuelle. Les acteurs de la religion de l'échange quotidien, auxquels ces auteurs s'adressent dans leurs sermons, par exemple, percevaient les choses autrement. Bien que rares, il existe des témoignages qui n'ont pas été produits par l'élite intellectuelle et qui nous permettent de jeter un regard sur cet autre type de religiosité. Et je voudrais, dans la dernière partie de mon exposé, vous présenter deux exemples de cette religiosité de l'échange social quotidien. Alors, le premier est tiré d'une lettre adressée par un couple, Saïs et Sura, à leur fils Ision, le 10 du mois de Hatir, troisième mois du calendrier égyptien, qui correspond au mois de novembre. La lettre provient de la région d'Oxyrhynque, en Égypte, et elle est datée sur des bases paléographiques au IVe siècle. Je ne vais pas lire l'ensemble de la lettre. Il y a des salutations. Et la phrase qui nous intéresse ici est la suivante. « Depuis le début de l'année, nous avons été très malades. Mais nous rendons grâce à Dieu d'être guéris. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas sacrifié de porc, ou plutôt de porcelet. Nous attendons que tu viennes. » Après, il y a d'autres questions très pratiques, disons alimentaires, et une longue série de salutations. Mais je passe. Or, dans les lettres de l'Antiquité, sur papyrus, le terme « huios » peut être utilisé comme terme « fils », mais il peut être utilisé comme terme générique d'affection. Mais dans ce cas-là, il doit probablement être compris dans son sens propre, c'est-à-dire Ision est vraiment le fils du couple. La lettre indique que Psaïs et Sura ont l'intention d'offrir un sacrifice de porcelet pour remercier Dieu de les avoir guéris d'une maladie et qu'ils attendent le retour de leur fils pour le faire. Les éditeurs du papyrus, Grantham & Hunt, qui ont publié dans la série des papyrus d'Oxyrhynque en 1914, ce papyrus, ne se prononce pas sur l'appartenance religieuse des expéditeurs. Or, la formule « euchomai paratokurioteo », on ne la trouve que dans des papyrus chrétiens. L'un des premiers éditeurs du papyrus, Giuseppe Guedini, dans les années 30, dans un recueil de lettres chrétiens, avait initialement exclu cette lettre, malgré la formule chrétienne, justement en raison du verbe « tuein » qui le gênait. Ensuite, il était revenu et il avait décidé d'inclure cette lettre dans le recueil de lettres chrétiennes, mais en disant que « tuein », il fallait l'entendre au sens banal de « tuer » et non pas de « sacrifier ». Or, il est vrai que « tuein » peut être utilisé aussi pour l'abattage profane. Mais je pense, dans le contexte de la lettre, il est assez clair que le couple, Psaïs et Sura, ont l'intention d'offrir les porcelets pour témoigner leur remerciement à l'égard de Dieu. Il s'agit donc d'un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu, une pratique également attestée, par exemple, chez les paysans chrétiens de Nola, en Italie du Sud, dont Paulin, le poète chrétien, dans ses Carmina Natalitia, parle au début du 5e siècle. Cristiano Grottanelli a écrit des pages excellentes sur cette pratique. Le deuxième exemple est tiré d'un texte hagiographique. Or, la géographie est un genre littéraire que l'historien doit manipuler avec une prudence particulière lorsqu'il entend tirer des éléments historiques de ces textes. Il faut en fait tenir compte des finalités de ce type de texte qui sont à la fois dogmatiques, catéchétiques, parénétiques, morales, politiques, ecclésiales, etc. Mais ici, je ne m'intéresse pas à l'historicité d'un personnage ou d'un martyr, mais à, disons, aux éléments rituels liés au culte d'un saint. Parmi les genres de la littérature chrétienne ancienne, la géographie est peut-être celui qui témoigne le plus de traditions populaires, même si les hagiographes appartenaient à l'élite intellectuelle. C'est le cas de Chrysippe de Jérusalem. On est à la moitié du 5e siècle. Auteur d'un éloge de Saint Théodore. Dans la deuxième partie de son Encomium, Chrysippe décrit 12 miracles qui ont eu lieu auprès du martyrium, donc du sanctuaire bâti sur le tombeau du saint. Il n'indique pas exactement l'endroit du martyrium qui probablement avait été bâti à Amazé ou à Eucharite, qui est une ville pas loin. Je vous propose de lire le 10e miracle. Un homme qui conduisait un bœuf pour l'offrir en sacrifice, après avoir passé la nuit dans un endroit le long de la route, eut besoin d'acheter de l'herbe pour nourrir la victime sacrificielle. Quelqu'un lui donna ce qu'il avait demandé sans le lui faire payer, et le pria de lui attribuer une partie du sacrifice. L'homme qui transportait l'offrande arriva donc au sanctuaire, mais le martyr, l'ayant devancé, dit au prêtre de ne pas accepter le sacrifice seulement de la part de celui qui le portait, car il avait également un, je ne savais pas très bien comment traduire, koinonon, un copain, un coparticipant. Quand on lui rapporta ces faits, l'homme s'irrita, s'indigna, ne savait que penser, jusqu'à ce que, après avoir tout examiné, il se souvienne de celui qui lui avait fait le petit cadeau de l'herbe. Et il le mentionna donc pendant le sacrifice. Le martyr accepta alors l'offrande des deux. Son souci était si grand que rien ne resta sans récompense pour ceux qui avaient agi avec foi. Donc ici, vous voyez le sacrifice, tusia, la victime sacrificielle, tuma, sont mentionnés sans détour. Le bœuf est amené au sanctuaire, en offrande au saint, qu'il accepte une fois que l'offrant reconnaît le présenter également au nom de l'homme qui lui a généreusement offert l'herbe pour la victime. Les prêtres du sanctuaire, très probablement, recevaient les offrandes sacrificielles et présidaient probablement au sacrifice. Dans un autre miracle du même texte, le miracle 6, Chrysippe mentionne un magnifique couteau, Machaira, offert par un pèlerin et déposé sur l'un des autels sacrificiels, Ephenos ton thusiasterion. Donc, l'encomium a probablement été lu par Chrysippe devant un public ecclésiastique, peut-être à la communauté de l'Anastasis à Jérusalem. S'il écrit aussi ouvertement sur le sacrifice dans le contexte du culte d'un saint, Chrysippe ne s'attendait manifestement pas à des réactions indignées de la part de son auditoire. Le texte de Chrysippe n'est pas une exception. Nous connaissons d'autres cultes de saints dans l'Antiquité qui prévoyaient des abattages rituels. J'arrive à ma conclusion. Je pense être dans les temps. Comment faut-il comprendre le sacrifice animal dans le contexte chrétien? Il ne faut pas, à mon avis, y voir une simple survivance de pratiques païennes dans des couches de la population qui n'étaient pas complètement christianisées. Cela reviendrait à adhérer au point de vue des autorités ecclésiastiques et des spécialistes de l'élite cultivée. animé par la volonté de distinguer une forme pure et authentique de christianisme des formes corrompues et imparfaites, encore imprégnées de paganisme, d'idolâtrie, de superstition. Les historiens qui soutiennent que le sacrifice chrétien ne peut être considéré comme un sacrifice s'appuient essentiellement sur le discours des autorités ecclésiastiques et des auteurs chrétiens. Il faut plutôt admettre que dans les sociétés chrétiennes de l'Antiquité tardive, on assiste à une coexistence de différents types de religiosité. Le sacrifice animal, comme je le disais, appartient à la religiosité de l'échange social quotidien. Il n'est présent dans la production littéraire de l'élite cultivée que comme cible polémique, au même titre que d'autres pratiques considérées comme païennes. Je m'intéresse au sacrifice animal chrétien, non seulement tel qu'il a été compris, rejeté ou justifié théologiquement, par les élites intellectuelles, mais surtout tel qu'il a été considéré et pratiqué par 95% de la population chrétienne qui n'appartenait pas aux spécialistes de la religion et aux clergés cultivés. Pour cette population, le sacrifice n'est pas une pratique incompatible avec le christianisme. Il ne remplace pas le sacrifice eucharistique, mais il coexiste avec lui et remplit d'autres fonctions. Même les pèlerins que j'ai rencontrés à Mleta, en Géorgie, considèrent l'abattage rituel qui a lieu pendant la fête de la Lomisoba, en l'honneur de Saint-Georges, comme un rite entièrement chrétien. Je ne veux pas suggérer qu'il existe une continuité directe entre l'ancien sacrifice chrétien et les sacrifices que les chrétiens pratiquent encore de nos jours, dans les Balkans, au Caucase et ailleurs. Comme tout phénomène historique, le sacrifice chrétien a subi des changements qui ne peuvent être compris qu'à travers une analyse contextuelle attentive et poussée. Il est toutefois clair que l'histoire du sacrifice animal ne s'est pas terminée avec les édits des empereurs chrétiens à la fin du IVe siècle, et qu'ignorer les pratiques sacrificielles des communautés chrétiennes revient à exclure de l'histoire la religiosité d'une grande partie de la population chrétienne du passé et du présent, pour laquelle le sacrifice n'est pas un anachronisme, un archaïsme, mais un rite qui a un sens. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.